Jessica Woodward, bonjour. Alors, ouais. Je suis très heureux de vous retrouver et c'est à l'occasion de la présentation de votre film en tant que réalisatrice solo, Lucas, donc, qui est présenté au Festival d'Ostende. On ne peut pas vraiment dire que ce soit une adaptation post-apocalyptique, mais plutôt vous êtes inspiré du roman de Dino Buzzati, Le désert des Tartares. Le livre est sorti en 1940. Quand l'avez-vous découvert et comment le flash s'est-il produit chez vous?
Plein de flash. Vous avez ce livre. Ouais. En fait, je suis diplômée en littérature italienne. Donc, je connais ce livre depuis toujours.
Vous avez vécu en Italie. Hein?
J'ai vécu en Italie, je parle italien. Donc, je connais le désert des Tartares. C'est une phrase qui a été même appropriée par les Italiens. Ils utilisent ça quand ils parlent de quelque chose de mystérieux, de vide. Ouais, c'est vraiment un désert des Tartares. C'est drôle, donc je connaissais ça comme concept. Le livre, je suis habitée par le livre depuis toujours. C'est un livre qu'on relit de temps en temps et on découvre toujours des couches. Et c'est un livre qui porte plutôt des provocations et des questionnements pertinents, simples, purs, universels. Qui suis-je voilà, on va où? Voilà, des questions clés. Et donc, et puis le rapport entre l'individu et la nature, qui est une obsession personnelle depuis toujours dans le cinéma que j'ai créé avec Peter Brosnan ces dernières années. Et c'est une continuation très naturelle aussi de creuser les illusions, le pouvoir, la corruption et notre planète comme arène. Et donc j'ai transposé le concept d'un groupe de soldats, d'hommes militaires qui attendent un ennemi. J'ai transposé ça vers le futur parce que c'est le futur qui m'interpelle, qui m'intrigue le plus en ce moment, nous tous.
Alors ça parle aussi de la fuite du temps, comme vous dites, de l'absurdité de la guerre. Finalement, un sujet bien actuel.
J'ai commencé ce projet, l'écriture du projet, le développement du projet avec des lieux bien précis en Arménie au départ. En 2017. Les Arméniens coproduisent ce film. On est 5 pays coproducteurs. Mais c'était 2017, donc j'ai démarré ce projet. J'ai arrêté pour The Barefoot Emperor. Et je suis revenue sur le projet Covid. Voilà. Ça a surgi, nous a changé profondément tous. Toutes nos convictions ont été complètement écrasées. Et la guerre, mais pas simplement la guerre en Ukraine, on est tous maintenant aujourd'hui, on suit ça de près, on essaye. Mais c'est aussi la guerre entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan qui a éclaté et qui faisait qu'on ne pouvait plus tourner là. Donc on a décidé de tourner tout le film en Sicile.
Alors, vous avez même été pointu au niveau de la recherche en ce qui concerne justement ce commandement, la guerre. Vous avez fait appel à des experts militaires belges. Expliquez-nous un petit peu.
Ben oui, parce que moi, j'ai fait des entraînements avec des soldats arméniens en Arménie. Parce qu'il faut se familiariser, si on veut raconter une histoire, avec le sujet, mais aussi comme le corps est primordial, le corps, les mouvements, les rituels, les gestes, j'avais un peu envie de goûter à ça. C'était pas du tout nécessaire d'aller être dans des zones de guerre pour sentir le sang et l'odeur de la guerre. Ça, non. Notre responsabilité en tant que conteur et cinéaste, c'est d'imaginer profondément. Mais j'avais envie aussi de pouvoir, avec confiance, donner des instructions sur le plateau au mec qui devait tirer. Il tire mal. Il n'y en a qu'un qui sait tirer, c'est Lucas. Parce que comme il n'y a jamais de guerre, il ne s'entraîne pas beaucoup. Mais il fallait quand même avoir un degré de confiance. Mais j'étais bien entourée, toujours bien équipée avec des experts en effets spéciaux et tout ça. Donc,
alors, vous avez donc tourné en Italie, comme on l'a dit, l'Etna, Mélilli, c'est des endroits que vous connaissiez du temps que vous aviez vécu en
Italie? Non, pas du tout. Non. Etna, oui, j'avais visité Etna et Etna reste quand on voit, quand on vit Etna, on est fort marqué par ça, ce volcan qui vit, quoi, vivant. Etna, je connaissais, et non, j'avais une grande curiosité. J'ai pas trouvé des espaces comme en Arménie, désertiques. vaste, ouvert, parce que c'est trop développé, la Sicile. Et donc, je suis tombée sur les projets publics abandonnés.
Okay.
Il y en a 350, et c'est une espèce de... Il y a même un livre sur ça qui s'appelle « Sicilia Incompiuta », architecturalement fascinant. 300, plus de 300 projets publics abandonnés, mi-route.
Il n'y a pas qu'en Belgique qu'il y a ça.
Il n'y a pas qu'en Belgique. Non, il y en a perdu, mais les Siciliens, c'est vraiment c'est les maîtres. Hein, parce qu'il y en a quand même, il y a même une piscine olympique qui fait 49 mètres. C'est juste à mourir de rire. Maintenant, c'est la jungle. Et donc, j'ai trouvé cette digue. Et la Diga di Bluffi, c'est pas loin de Palerme, c'est dans les montagnes. Mais comme c'est une histoire triste, ils ont rasé un village, détruit toute une vallée, un écosystème pour rien du tout. Immense, c'est colossal cette digue, mais c'est la corruption et c'est des conflits. On n'aime pas planquer le mot mafiosi dessus, mais bon, enfin, c'est ça. Mmh. Et donc, une source de honte aussi, parce que c'est tellement grandiose et c'était tellement cher et jamais terminé. Mais c'est un plateau formidable.
Mmh.
Donc, j'arrive là, et bon, mais pour convaincre les autorités, parce qu'au départ, les autorités disaient, voilà, digue, elle en existe. C'est dit, ça n'existe pas. Et je trouvais ça tellement drôle parce que ça colle parfaitement à l'histoire. C'est, même elle existe, j'ai 250 photos de la digue, de votre digue. Et petit à petit, on a trouvé moyen. Il fallait construire une route aussi pour pouvoir y accéder pour l'équipe, pas pour nous. Mais pour l'équipe.
Et donc, le Fort Kairos, tout a été tourné là-bas?
Non. Le souterrain, il n'y avait pas de souterrain là. Donc, il y a des espaces extérieurs et les grandes, les immenses portes. Tout ça, c'est dans la digue de Bluffi, la digue de Bluffi. Le Bluffi, c'est le tout petit village à côté. L'autre, c'est les caves de Melilli, proche de Siracusa. Et le nord, c'est Edna.
Okay.
Et le quatrième endroit, lieu de tournage, c'était cette radar abandonné de OTAN. C'était un radar d'OTAN. Ouais.
Alors, vous jouez beaucoup avec les formes. Est-ce que, visuellement, vous avez travaillé avec un storyboard pour...
Non, jamais. Jamais. Storyboarding, jamais. Non. Moi, je rassemble en équipe. Mais bon, le développement des idées costumes, déco, c'est une grande recherche.
Ouais.
Et c'est clair qu'on arrive à quelque chose de très pur. Mais c'était des années de travail.
Ouais.
Le drapeau. Coup de génie de notre chef déco. Qui peut être symbole de haut, ben ça peut être traduit de mille façons différentes, mais c'est juste une petite touche qui, une étincelle qui fait sourire, qui fait pleurer, c'est juste dingue. Donc, ça, par exemple, le drapeau, il y a pas des 2 ans pour trouver ce drapeau, idée drapeau. Oui, c'est un processus comme ça, mais on arrive à quelque chose de très pur. Je voulais couper tout lien avec des associations culturelles, un poids, une lecture, donc le temps, géographie, culture, il fallait tout couper. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de saison, on ne traverse pas de saison, on ne parle jamais du temps. Dans le livre, il y a 30 ans qui passent.
Mmh.
Voilà. Et j'avais aucune envie
On parle de génération.
Génération, c'est très vague.
Ouais.
Et on sait très bien que, oh là là, ils ont vraiment passé du temps là, les pauvres.
Ouais. Au niveau de la photo, vous avez fait appel à Virginie Sodev, dont on avait eu le travail avec Philippe Van Leu dans Une Sérénité.
Oui.
C'est de nouveau une autre femme dans un monde d'hommes, finalement. Donc,
je dois avouer qu'elle, en tant que chef déco était femme, chef maquillage, cheveux de sa femme, costumière, femme.
Si.
Ça, c'est sur le plateau. Donc, vraiment, on était vraiment des Amazones, là, comme ça. Non, mais je mais on s'en fiche. On travaillait tellement harmonieusement, on n'en a jamais parlé. Et je n'ai pas fait appel à des femmes. Et puis, je vais avouer que la post-production, c'était tout à fait mené par une équipe d'hommes. Donc, je n'oserais jamais dire que le film a été construit par des femmes. Et puis, au fond, on s'en fiche. On me pose souvent la question, déjà, on démarre maintenant avec de parler du film. Enfin, je commence maintenant à devoir mettre des mots dessus, mais... Et je constate que voilà, c'est en fait homme-femme, cette frontière-là n'était pas la source de l'histoire, n'était pas un élément central. Donc, c'est ce discours une femme qui gère les hommes, ou en fait, ça n'a pas d'importance. Donc, étrangement, on n'en a jamais parlé.
Ouais. Et donc, justement, on parlait de femmes et de comédiennes. Bon, ben, Géraldine Chapin, il faut quand même le dire, qui avait déjà travaillé avec vous.
Oui.
À quel moment vous lui avez parlé du projet ?
Tout de suite.
Déjà du temps de
Belfort ? Oui. Ah. Donc déjà, je crois.
Vous l'aviez déjà mise en condition.
Oui, tu dis. Mais c'était très clair. J'ai dit, Géraldine, je suis désolée, je ne peux pas faire un film sans toi, mais il faut que tu fasses un homme. Et on croyait que c'était un homme, le personnage, the general. Et en fait, d'ailleurs, à la fin, en fait, ce n'est pas vraiment un homme, ce n'est pas vraiment une femme. Elle dit, I'm a reptile.
Vous savez qu'elle est un peu asexuée dans le film.
Oui, elle est au-delà, en fait. Mmh. Et puis, c'est chouette parce que c'était jamais dans le tram, dans la construction du scénario et dans tout le travail de terrain, d'atelier avec les comédiens et tout ça. Elle n'était jamais un personnage femme. Donc, en fait, ça ne rentrait jamais. C'était toujours un homme. Donc, enfin, c'était drôle parce qu'on ne poussait jamais cette thématique. Mais ça a surgi tout à la fin dans le montage. Et on dit, mais attends, mais c'est quand même pas un homme. La grande surprise. Ah ouais, donc, ouais, c'est vrai. Donc, j'ai découvert ça à la fin. Donc, ce n'était pas le but. Le but, c'était elle, en tant qu'artiste, grande artiste, grandiose, je dois avouer. Je dois travailler avec elle, parce qu'on a ce rapport qui est unique, et dynamique, et volcanique. Et donc j'ai dit, je veux que tu sois à côté de moi pour ça. Je m'en fiche si tu es femme ou tu es un homme.
J'ai regardé encore hier soir, quelle énergie quand même. Hein.
Ouais, dingue.
Alors, un autre membre de votre équipe en tant que comédien, c'est Sam Lewick.
Ouais.
Qui a une formation de danseur. Est-ce que c'est avec lui que vous avez conçu ces chorégraphies et le haka?
Oui, absolument. Oui, j'ai fait appel à Sam très tôt dans mon processus. J'ai écrit le rôle de Master Taylor Gaston pour lui et avec lui, toujours avec les comédiens, la construction d'un personnage et le côté physique. Il était un peu chef d'orchestre. Donc, dans les ateliers, il prenait un peu les choses en charge. Mais c'était vraiment un travail collectif avec l'Arménien qui fait Constantine, Sam Velta Devosian. Lui aussi, il a une grande formation dans le théâtre, physique et tout ça. Et donc, les solutions, le salut par exemple, toutes les choses comme ça ont surgi.
C'est essentiel quand même.
Ouais. Surgi d'un processus de travail
collectif.
Et Sam était là avec, comme lumière. Et plein d'idées et plein avec son bagage de confiance dans tout le mystère et toutes les surprises que le corps peut emmener dans un processus. Et il a tellement d'expérience, il sait comment libérer les choses, la tête, le corps, pour arriver à quelque chose de libre. Parce que liberté était primordiale. Il fallait que tout respire et il fallait couper tout lien avec des associations. Par exemple, on peut l'appeler haka, parce que c'est un peu, avec les cris et les mouvements des soldats quand la pluie arrive. Mais on ne voulait pas que ça soit nécessairement un vrai haka.
Oui, c'est danse tribale, quoi.
Sans géographie, sans association. On a tous regardé ensemble plein de rites et de chorégraphies et du tribal.
Alors au niveau des tenues, justement, on en parlait, des uniformes, vous avez fait appel à une styliste bulgare avec qui vous aviez déjà travaillé sur King the Butch.
Oui, donc, Becca Vitinoche.
Oui. Quels ont été les au niveau de la recherche de ces uniformes, vos sources d'inspiration?
Oh, mon Dieu, on a mis 2 ans pour ça.
Waouh.
Ouais, 2 ans. J'ai des dossiers de centaines de photos. Il fallait pas que ça soit cet aspect mode trop Armani, parce que on pourrait partir dans ce sens-là. Il fallait pas que ça attire trop l'attention. Il fallait que ça ne qu'il y ait pas des références claires dans les formes, donc pas trop, par exemple. Japonais, mais le japonais de Duke, il a quand même des petits échos comme ça, mais il fallait que tout reste discret et organique et crédible pour qu'ils sont là, habités par ça, et en fait on fait pas attention.
Non.
Et donc ça marche. Ça, c'est le but. On ne fait pas attention. Parce que ça marche. Ça marche. Mmh. Ça, c'est tellement organique. Donc, pas trop chic, militaire quand même, mmh. mais qui a de l'allure parce qu'ils sont la beauté et ce côté digne. Hein, il fallait qu'ils célèbrent ça dans leur univers. Mmh. Kairos est quand même classe, ou était, ouais. ou avait mmh. cette envie d'avoir. Mmh. Ouais. Mais c'est un peu fade, tout, on voit.
Alors, dans vos exigences, quand vous avez commencé, c'était de travailler dans le noir et blanc et dans le 16, et dans le 16 mm. Parce que c'est vrai que, finalement, par rapport à vos décors, les déserts, vous auriez pu prendre du 35 ou...
On n'avait pas besoin. Donc, ce qui m'intéressait le plus, c'est ce dont on n'a pas besoin. Tout ce qui est entre. Et on n'a pas besoin d'autant d'informations. Cette manque faisait partie des éléments cruciaux. C'est qu'il fallait avoir des manques. Et il fallait être dans cet registre, dans cette palette de... Et parce qu'il y a un côté dans le livre, dans les idées et notre approche, nous tous, quelque chose d'éphémère, quelque chose de rester mystérieux, pas tout à fait abordable, pas tout à fait... Et ça c'est le noyau de tout ça. La puissance et la beauté de ce concept, c'est qu'on a l'impression de à peine comprendre quelque chose et ça nous échappe. Et ça, c'est du fun, hein? Ça fait partie de la force de l'affaire. Donc on sort de là un peu en trébuche à travers tout ça et on sort de là et on n'est pas tout à fait sûr où on en est. Mmh. On a été un peu bouleversé, mais on n'est pas très sûr. Et je constate que ça, je crois, avec chaque interview, j'en ai fait maintenant une quinzaine, est différent. Les questions qui surgissent, mais il y a toujours pourquoi le livre.
Oui, bien sûr.
Ça, c'est normal. Mmh. Ouais. Mais à part ça, ça part dans tous les sens. Et donc, c'est bien. Donc, en fait, on se retrouve dans une immense marée, quoi. Ouais. Donc, ça, c'est beau. Donc, le 16, parce qu'il y a cette fragilité, cette manque d'information qui est géniale. Mmh. C'est quand on... Noir et blanc, à mon avis, pour ce récit, ça nous fait approcher, parce qu'il faut être divorcé de la réalité. On est distrait par les couleurs dans cette histoire. Mmh, on n'a pas besoin de couleurs pour accéder à ces émotions-là. Donc le noir et blanc était le moyen le plus efficace, le plus pur, le plus direct, le plus vrai. Toujours.
Épuré.
Toujours. Donc il n'y a pas de paperasse, c'est juste le moyen le plus efficace pour arriver à quelque chose. Mais ça fait peur parce qu'on est là, un peu dans le vide, comme où ils vivent dans les caves de Mélili. C'est juste la déco. On arrive dans les lieux, on dit, mais qu'est-ce qu'on va mettre? On ne va pas décorer ça. Donc la solution, on a mis 2 ans. C'était cette immense table et la table du High Command, là, des commandants. C'est tout. On peut pas rajouter. Dans ces espaces-là, on ne peut rien rajouter. Sauf ces dimensions-là. Et c'est drôle parce que les gens parlent de l'aspect visuel. Mais l'aspect visuel ne fonctionne pas du tout sans penser à l'aspect sonore. C'est le son. En fait, tout est rempli par le son. Mm-hmm. Et on ne s'en rend même pas compte.
Même quand on ne l'entend pas.
Absolument. Ces silences-là remplissent. Mm. Et sans... C'est la moitié du film, c'est le son. Mm. Et c'est drôle parce que oui, on voit ça et ça, c'est tout de suite notre... ce langage-là, mais ce langage-là, c'est que la moitié. Parce qu'en fait, rien, la construction du temps, le sculpter ce temps a été fort dicté par la bande sonore et le son du film. Parce qu'il fallait suggérer plein de choses via le son parce qu'on n'avait pas de budget. Il fallait suggérer des dimensions où il y avait des soldats, mais hors écran. Hors cadre, parce qu'on avait juste un budget pour parfois 15 soldats pour quelques heures. Donc, il y avait vraiment des contraintes qui ont fait que je devais l'assister. Ok, ne vous inquiétez pas.
On va remplir.
Le pont entre ces séquences-là et les dimensions vont être remplies. Donc, vous inquiétez. Mais le son, on enregistre le son de notre façon sur le bateau. Il n'y a que moi qui sais que. Ces ponts vont être construits dans la post-production, dans l'audio, dans le sonore. Et donc je dis, ne vous inquiétez pas. La moitié du film, c'est le son. Ça vient après. Et c'est vrai. Et c'est
Jessica, vrai. Un grand merci. On rappelle donc que Lucas, normalement, il va à longue vie, pas mal de festivals là en perspective, et une sortie peut-être en septembre.
Septembre, oui.
Merci en tout cas.
Merci.